En fait, quand je rencontre un entrepreneur, au bout de un quart d'heure, je sais déjà si je vais creuser ou pas.
Salut, c'est Maxime et tu écoutes Sonar, le podcast qui t'aide à trouver ton cap face à l'océan des possibles. Aujourd'hui, je reçois Sophie Bruchou, qui a ce qu'on appelle une VC. Alors VC, c'est l'acronyme de Venture Capital, en français Capital Risk. Ça désigne l'activité d'investir de l'argent, du capital, dans des jeunes entreprises en croissance, autrement dit des startups. C'est un métier assez spécifique, mais qui attire de plus en plus d'étudiants, et il m'a semblé intéressant de proposer un échange avec Sophie, qui travaille chez Idinvest Partner depuis maintenant plus de 3 ans. Idinvest, c'est l'un des fonds de capital risque les plus reconnus à Paris, notamment pour avoir accompagné le succès d'entreprises comme Criteo, Mythic ou Zenly. Dans cet épisode, Sophie explique en quoi consiste son travail et témoigne de son rapport à l'entrepreneuriat entre ses premières expériences professionnelles et son métier actuel. J'espère que cet épisode te plaira et je te souhaite une très bonne écoute. Salut Sophie.
Salut Maxime.
Merci de me recevoir dans les locaux d'Idinvest. Pour commencer le podcast, j'ai une première question qui est relative à l'appellation de ton métier. Donc tu es VC, c'est un terme qui couvre à la fois le fonds d'investissement et à la fois le métier d'investisseur. Est-ce que tu pourrais me dire pour toi quelle est la mission d'un VC à la fois comme fonds et comme personne investisseur?
C'est une excellente question. Le métier de VC, avant tout, c'est un métier d'investisseur. Donc investisseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on investit de l'argent, en l'occurrence qui n'est pas le nôtre. Donc notre mission première, c'est de faire du retour sur l'investissement pour que nos investisseurs retrouvent leur argent au moins une fois et qu'idéalement, ils fassent de la performance. Au quotidien, il s'agit de trouver des startups qui ont un modèle intéressant, dans lequel on croit beaucoup. Pourquoi il faut y croire? Parce qu'en fait, on est sur un actif d'investissement qui est ultra risqué. On a un taux de casse qui est hyper élevé.
Quand tu dis taux de casse, ça correspond à quoi exactement?
En général, sur 10 investissements, tu vas en avoir 7 ou 8 qui vont complètement se planter. Tu vas en avoir 2 qui vont vivoter. Et tu vas en avoir un qui va être exceptionnel, qui va te rendre au moins une fois ton argent et idéalement qui va te faire une performance exceptionnelle. Okay. En l'occurrence, nous, chez Idinvest, un investissement comme Criteo, on a fait 40 fois notre investissement et c'est ce qui a permis au fond d'être ultra performant pendant beaucoup d'années.
D'accord. Donc les actifs, c'est des sociétés type start-up, donc des jeunes entreprises en croissance.
Et
donc toi, en tant que VC, enfin du coup dans ton métier, c'est quoi ta mission en tant que personne?
Alors, mon métier, c'est pas tant faire de l'analyse financière que de rencontrer beaucoup de gens pour identifier des opportunités d'investissement. Donc aujourd'hui, en fait, on est dans un environnement qui est ultra compétitif. Donc il y a beaucoup de VC sur le marché, il y a beaucoup de capitaux qui sont disponibles. Donc l'enjeu, c'est de trouver des sociétés avant tout le monde. Et comme nous, en fait, on investit dans des sociétés qui sont très jeunes, il n'y a pas d'historique financier. Donc en fait, quand on analyse une boîte, on essaie d'analyser très rapidement, est-ce qu'on croit qu'il y a une opportunité de marché, est-ce qu'on pense que le business model est viable, et surtout, est-ce qu'on croit dans les fondateurs. Donc c'est plutôt une analyse, pas psychologique, mais en gros une lecture de l'équipe, en termes de caractère, en termes de skills, en termes de capacité à convaincre des investisseurs et convaincre des employés de rejoindre la boîte. Et puis sur le marché, en fait, on essaie de dimensionner le marché pour qu'on se dise « Ok, ce marché-là, il est suffisamment gros pour qu'on construise des très grosses boîtes sur ces marchés-là et que donc du coup, pour nous, le retour financier soit intéressant. »
Et quel est le premier critère, le critère principal, toi, que tu regardes quand tu rencontres des entrepreneurs et que tu t'apprêtes éventuellement à investir dans leur société?
Ouais. Alors forcément, la grille de lecture, elle évolue un peu dans le temps. Moi, quand j'ai commencé dans le métier, je regardais énormément les chiffres, c'était très factuel. Et en fait, plus j'avance et plus en fait, je me concentre sur le fondateur. Parce qu'en fait, quand on rencontre une boîte, on rencontre son CEO. Et donc en fait, comme on rencontre des centaines d'entrepreneurs tous les ans, on arrive en fait assez rapidement à identifier quels sont les individus vraiment exceptionnels. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on entend par exceptionnel? C'est l'ambition. En général, les entrepreneurs qu'on finance, c'est des personnes qui sont complètement mégalos, mais c'est ce qu'on cherche, parce que c'est une prise de risque qui est hyper élevée, donc il faut qu'il y ait les entrepreneurs derrière qui soient convaincus que le risque vaille la peine. Donc, est-ce que le mec est mégalo ? C'est quoi son niveau d'énergie ? C'est quoi son niveau de conviction ? C'est quoi son historique, en fait, personnel par rapport au marché qu'il veut attaquer ou au business model qu'il veut établir ? Et aussi, moi, ce que j'aime bien dans les entrepreneurs, c'est en fait l'exhaustivité de ton savoir. J'aime pas les gens qui vont hésiter sur leurs chiffres, qui vont être approximatifs sur leur marché, leurs concurrents ou leurs propres métriques. Il faut qu'il y ait vraiment des gens qui soient 100% focus sur le business et donc qui soient capables de répondre à toutes les questions que je leur pose.
D'accord. Et quelle légitimité tu trouves finalement quand tu te retrouves en réunion avec un entrepreneur à lui poser des questions ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui existe ou est-ce que c'est simplement un dialogue et il n'y a pas de challenge côté de l'entrepreneur vis-à-vis de l'investisseur qui est en face de lui ? Quel est le rapport de force, en fait ?
Ça dépend vraiment. Je pense que, en fait, en VC, il faut clairement être humble parce qu'on passe notre temps à être confronté à des entrepreneurs qui connaissent mille fois mieux leur marché et qui passent 100% de leur temps sur leur sujet. Donc forcément, nous, notre savoir comparé au leur est ultra superficiel. Maintenant, il y a quand même une valeur dans le savoir du VC. Parce que, comme j'ai dit, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs, on rencontre beaucoup de modèles, il y a quand même en fait des sortes de patterns que tu peux reconnaître. Donc, en fait, ces grilles d'analyse-là que les VC se construisent au fur et à mesure, elle est utile, mais après, il faut savoir s'en défaire. C'est vrai qu'en tant que VC, parfois, on complexe un peu parce qu'on se dit, en fait, notre savoir, il est hyper superficiel. Mais quand même, les grilles d'analyse qu'on met en place, parfois, ça aide en fait les entrepreneurs eux-mêmes à réfléchir sur leur propre business et parfois à identifier des opportunités qu'ils n'auraient pas forcément identifiées.
Ouais, c'est clair.
Donc, le rapport de force d'égal à égal.
Ouais, ouais. Et ces grilles, justement, que tu t'es construites, comment tu te les as construites dans le temps ? Comment t'es arrivé en fait à faire du VC ? T'avais un plan de carrière spécifique ? Ton sens analytique, tu l'as construit pendant ton parcours ? Ça fait 3-4 ans que tu travailles chez Edinvest maintenant ?
3 ans, ouais.
Comment tu t'es construit en fait ces outils d'analyse interne, peut-être avant ton début de carrière en VC, et puis depuis que tu es devenu analyste, puis investment manager ?
Ouais. En fait, moi, j'avais vraiment eu un pot pourri d'expérience en start-up et dans l'investissement avant d'arriver chez Edinvest. Donc, j'ai bossé pour des sociétés très jeunes comme plus matures. La plus grosse société pour laquelle j'avais travaillé, c'était une boîte de requêtes Internet qui s'appelait Wimdo, qui était la copie d'Airbnb par Rocket, où il y avait 200 personnes. Donc,
j'ai travaillé pour des...
En Allemagne, d'accord. À Berlin. Donc j'ai vraiment travaillé pour des boîtes très différentes, dans des fonctions très différentes, parce que j'ai fait à la fois du marketing digital, du biz dev, de la business intelligence. Donc business intelligence, c'est les analystes de données de la boîte. Okay. J'essaie d'éviter les anglicismes. J'ai fait du product management, j'avais bossé pour un fonds qui s'appelle Alven Capital, qui est un autre fonds de VC français. Donc du coup, le fait d'être dans ces différents postes, ça m'a vraiment aidé à en fait un peu avoir une vision à 360 d'une startup et de comprendre, ok, pour chaque département, quelles sont les métriques que tu vas suivre. Plus en fait après de mes expériences personnelles, tu vois, j'ai compris que voilà, être dans une boîte de 200 personnes, c'est pas les mêmes enjeux organisationnels que dans une boîte où il y a 10 personnes. Aussi, je suis restée dans des boîtes où, tu vois, on est passé de 3 employés à 50 employés. Donc, j'ai été confrontée, en fait, aux problématiques qui se posent lors de l'hypercroissance et lors, tu vois, de la croissance d'une équipe. Donc, du coup, cette diversité, en fait, fait que je pense que quand j'ai commencé chez Edinvest, j'avais déjà beaucoup plus de critères que tu vois, une personne qui débarque complètement dans ce métier. Après, cette grille, forcément, tu l'affines au contact des boîtes. Surtout quand tu fais des investissements, en fait, tu te retrouves au conseil d'administration de ces sociétés-là. Donc, tu réfléchis vraiment sur des problématiques stratégiques avec le management de ces boîtes-là et avec les autres board members de société. Donc c'est forcément l'expérience aussi qui t'amène à affiner cette grille de lecture.
Ton quotidien, du coup, en tant que VC, opérationnellement, c'est, tu m'as dit, donc une partie où tu rencontres beaucoup de gens, tu rencontres des entrepreneurs, tu rencontres d'autres investisseurs, tu vas éventuellement à des comités de direction des entreprises dans lesquelles tu as investi. Qu'est-ce qui manque dans ce tableau-là et qui constitue ton quotidien de travail?
Les mails. En fait, le gros défi du métier de VC, c'est de ne pas perdre vue ses objectifs. En fait, en gros, le métier de VC, t'as pas de feedback en fait sur la qualité de ton travail. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a personne qui te manage au quotidien, qui te dit OK, ton objectif pour cette semaine, c'est de faire ci et ça. Donc c'est à toi d'établir tes priorités. Sachant que, en fait, même si tu établis tes priorités et que tu les atteins, encore une fois, il n'y a personne pour te dire OK, là, tu as pris la bonne décision. Tout simplement parce que, encore une fois, on investit dans un actif qui est hyper risqué. C'est la startup, elle peut se planter à tout moment. Donc il y a plein de facteurs que tu ne maîtrises pas. Donc ça veut dire qu'en fait, ta performance financière en tant qu'investisseur, tu ne peux pas forcément la prédire. Et donc, il faut accepter de vivre avec cette incertitude et ce doute au quotidien. Donc, à côté de ça, en fait, quand tu es VC, tu as énormément de gens qui te sollicitent au quotidien, que ce soit sur LinkedIn, par email, etc. Donc, faut vraiment, enfin, pour moi, le plus gros challenge, c'est apprendre à gérer ses priorités et se concentrer sur les bons sujets. Et donc, le quotidien que tu as décrit, quasiment ça, mais la réalité du métier, c'est enfin, au-delà des rendez-vous, des discussions qu'on a avec les personnes, c'est être tout le temps à envoyer des mails, à répondre aux mails. C'est vraiment une grosse partie du métier.
Donc, prenons une journée type, il est 10h du matin, tu rencontres un entrepreneur, ça dure quoi? Ça dure 1 heure à peu près. Tu rentres dans ton bureau, mettons que tu n'aies pas de meeting qui suive avec quelqu'un d'autre. Tu veux étudier l'opportunité d'investissement. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu produis? Est-ce que tu le fais toi-même? Est-ce que tu travailles avec d'autres personnes? Comment tu fais?
Alors, déjà, en fait, quand je rencontre un entrepreneur, au bout de un quart d'heure, je sais déjà si je vais creuser ou pas. Donc, 9 fois sur 10, je sais que je ne vais pas creuser. Donc, c'est horrible à dire, mais quand je dis à la personne, OK, on se reparle la semaine prochaine, en fait, c'est juste une façon d'être poli et de dire à l'entrepreneur, bon, bah, a priori, c'est mort, quoi.
Tu lui dis pas au bout d'un quart d'heure, tu lui dis quand même à l'issue de la réunion.
Oui, parce que je creuse et de toute façon, même si je sais que je ne vais pas me poutiner sur l'investissement, la discussion que j'ai avec l'entrepreneur, elle est quand même intéressante pour moi parce que ça me permet de me renseigner sur un marché, sur un modèle économique. Donc, quoi qu'il arrive, j'en ressors quelque chose. Et surtout, moi, j'essaie en fait de poser les bonnes questions à l'entrepreneur pour que lui ne perde pas son temps non plus et que, en fait, mes questions l'amènent à réfléchir sur les potentielles fragilités de son business. Mais pour répondre à ta question, donc, à l'issue du meeting, en fait, 9 fois sur 10, je sais que je vais fermer, donc j'écris sur ma to-do semaine prochaine, envoyer un mail pour décliner. Quand je tombe sur une pépite, en gros, j'annonce déjà la couleur à la fin du rendez-vous. Je dis à l'entrepreneur, OK, je suis hyper intéressée, on se reparle et voici la suite du process. Et donc la suite du process, en fait, nous, chez Idinvest, ça dépend vraiment des sociétés. Mais en général, quand on est dans un processus standard, on se donne 1 à 2 semaines pour faire un audit business. Donc un audit business, c'est quoi? C'est se rassurer sur les chiffres de la boîte, se rassurer sur le business model de la boîte, se rassurer sur la taille de marché, appeler les clients de la société, appeler des personnes qui ont travaillé avec les fondateurs pour qu'on se rassure sur la qualité des fondateurs, passer un maximum de temps avec les fondateurs pour créer la relation et voir si bah, la confiance se crée en fait entre l'investisseur et les fondateurs. Et au-delà de ça, bah, du coup, le métier de VC aussi, c'est de vendre ses investissements à son équipe. Donc, c'est en fait arriver, pas politiquement, mais en tout cas, arriver à amener le sujet sur la table de son équipe pour obtenir la validation de ses coéquipiers. Parce que bah, si on l'a pas, on peut pas passer enfin, la décision d'investissement. Et voilà, et une fois que la mayonnaise prend des deux côtés, bah, on passe en comité d'investissement, l'investissement est validé, et ensuite, donc après, on déclenche des processus un peu plus standards, à savoir des audits juridiques, légaux, et techniques, si la thèse d'investissement repose vraiment sur la technologie de la société.
Ok, super clair. Juste pour démystifier un petit peu peut-être ce qui se passe pendant ce processus d'investissement en termes de production par rapport à d'autres métiers qu'on peut connaître comme le conseil ou la banque d'affaires, pendant toutes ces étapes, qu'est-ce que tu produis exactement? Est-ce que c'est quelque chose de très formaté? On fait des presses dans tous les sens qu'on va présenter? On fait des modèles de valorisation avec 10 000 onglets sur des Excel? Est-ce que c'est ça la réalité ou est-ce que c'est quelque chose de plus informel, structuré, mais plus informel?
Ça va vraiment dépendre de la typologie de la boîte. Qu'est-ce que fait la boîte? Est-ce qu'elle monétise? Est-ce qu'elle a beaucoup de chiffres? Est-ce qu'elle est... Elle a un certain nombre d'années d'existence, auquel cas, plus la boîte elle est mature et plus il y a des données à creuser, là oui, on va produire plus d'analyses, donc que ce soit des analyses financières ou bien des analyses de marché. Si la boîte elle est très jeune, en fait, il n'y a quasiment rien à produire, donc ça va être essentiellement passer des coups de fil, demander à nos analystes de faire des études de marché. Mais globalement, enfin, pour répondre à ta question, si tu compares à le métier de M&A ou de conseil, non. Nous, on n'est pas là pour gratter des slides, juste pour gratter des slides. On est vraiment sur de l'ultra-efficacité, de l'ultra-pragmatisme. Tout simplement parce que, déjà, nous, on ne rend pas de compte en fait, à des clients. Donc, on n'a pas besoin, tu vois, de produire artificiellement des slides. Nous, c'est vraiment pour nous faire une conviction. Donc, on la documente suffisamment pour informer proprement nos collègues et nos investisseurs à nous. Mais sinon, non, on est ultra pragmatique. D'autant plus que j'ai déjà dit un peu plus tôt, mais en fait, nous, on est vraiment dans un environnement hyper compétitif où, en fait, quand on repère un bon investissement, t'es à peu près sûr que, en fait, t'es pas le seul à avoir identifié l'opportunité. Donc, on est vraiment dans un enjeu de rapidité. Il faut se positionner très rapidement sur un investissement pour le gagner.
Le métier d'analyste, donc tu as dit, c'est pas un métier, ça consiste pas à pondre des slides pour convaincre tout le monde dans l'équipe. Toi, tu as commencé comme analyste chez Invest. Maintenant, donc, tu as évolué, ça fait donc 3 ans que tu y es, tu es investment manager. Comment a évolué ton métier? Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a parlé un peu de ton quotidien, mais quelles sont les choses dont on n'a pas parlé et qui font aussi partie de ton quotidien de, on va dire, de post-analyste dans ce fond?
Ouais, effectivement, tu l'as dit, quand je suis arrivée chez Norvège, c'était que j'ai commencé en tant qu'analyste. Bon, j'avais quand même un rôle de super analyste parce que chez Invest, on est le plus gros fonds français, on gère énormément d'argent et on reste quand même une équipe assez petite. Donc en tant qu'analyste, moi j'étais très responsabilisée par rapport à des analystes dans d'autres fonds. Donc dès que j'ai commencé chez Invest, mon rôle c'était de sourcer des opportunités d'investissement, de les analyser, de les exécuter, mais je ne pouvais que exécuter un investissement avec le sponsor en fait d'un directeur d'investissement ou d'un partenaire.
Quand tu dis le sponsor, ça veut dire quoi exactement?
Ça veut dire qu'en fait la personne qui négociait l'investissement et qui en fait créait la relation avec l'entrepreneur et qui était responsable de gagner le deal, c'était un senior. Moi en fait en tant qu'analyste, je ne faisais que pousser des opportunités d'investissement et les recommander. Ce qui a changé en 3 ans, c'est que là depuis un an, en fait c'est moi qui en fait gagne les deals, donc je prends les décisions d'investissement. C'est ma responsabilité de gagner les deals. Enfin, déjà de convaincre l'équipe de faire l'investissement, de les gagner et après de les gérer. Donc les gérer, c'est quoi? Donc c'est officiellement, on est administrateur de la société. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut être impliqué déjà dans la vie de la boîte. Donc on se retrouve. Alors ça dépend des conseils d'administration. Parfois c'est tous les mois, parfois c'est tous les 3 mois. Ça dépend vraiment de la dynamique des conseils. Mais tu vois, en cas de par exemple refinancement de la société ou bien si la société va mal, là faut vraiment en fait prendre des décisions. Donc là ça veut vraiment dire non seulement faire des recommandations auprès des entrepreneurs, mais aussi en fait arriver à gérer la politique avec les autres administrateurs qui n'ont pas forcément des intérêts financiers alignés avec les tiens, pour toi en tout cas représenter les intérêts de ton fonds d'investissement et t'assurer que l'argent que tu as mis dans la boîte n'est pas mis à risque.
Ouais, donc c'est un métier super exposé quoi. À la stratégie des entreprises, tu vois 10 000 secteurs d'activité toute la journée, tu as des relations avec des investisseurs, il y a un peu de management aussi puisque tu as des analystes qui peuvent travailler avec toi.
Ouais.
Vu que c'est quand même un peu un méga métier, c'est pas difficile de faire autre chose pour les VC. Quel est le parcours du VC en général d'après toi? Est-ce qu'il y a des VC qui vont monter leur entreprise après? Est-ce que c'est dur d'en sortir? Comment tu vois la chose? Est-ce que c'est pas si confortable que ça? Parce que c'est pas un métier qui est essentiellement, enfin, qui est vraiment confortable et c'est très dur de le quitter.
En fait, ça dépend vraiment de ta personnalité. Mais d'un point de vue intellectuel, c'est vrai que le métier de VC, c'est un des métiers les plus riches parce que comme tu l'as dit, c'est à la fois un métier analytique, c'est un métier de sales, parce que tu rencontres des gens tout le temps, c'est un métier de stratégie, parce que tu vas réfléchir à la stratégie de la boîte, mais aussi tu vas aussi réfléchir à la stratégie de ton fonds, donc c'est un métier qui est très tactique, t'apprends à négocier, t'apprends à communiquer, t'apprends à construire ta marque personnelle, parce qu'il faut être hyper visible dans l'écosystème, donc il faut que les entrepreneurs décident de s'adresser à toi et pas à ton concurrent, etc. Pour répondre à ta question, en fait, donc du coup, donc intellectuellement, en général, c'est un métier qui intéresse énormément de gens et qui attire beaucoup de gens. Mais dans les faits, je pense que c'est pas un métier qui est bien pour tout le monde. Par exemple, je le recommanderais pas à des gens qui, tu vois, ont un profil plutôt d'expert. Les gens qui aiment vraiment, tu vois, qui sont des techniciens, qui aiment rentrer en détail, tu vois, dans le fonctionnement des choses. En fait, c'est des gens pour qui être en VC, ça va être très dur parce que en VC, il faut savoir jongler avec plein de sujets en même temps, savoir vraiment développer des skill sets tu vois très différents. Il y a une heure où tu vas devoir te pencher sur une table de capitalisation, faire de l'Excel, à faire tourner des modèles assez complexes.
C'est quoi une table de capitalisation? Tu peux peut-être expliquer ce que c'est
Ouais, table de capitalisation, en fait, c'est le tableau qui indique qui décrit le capital de la boîte, donc exactement qui possède combien d'actions et les a payées à quel prix quels droits sont rattachés aux actions qu'il possède.
C'est là où tu vas simuler un petit peu ce que toi tu vas pouvoir obtenir de l'entreprise à l'issue de l'argent que tu vas injecter dedans, c'est ça ?
Exactement, okay. Oui. Et donc pour revenir à ton point précédent, donc du coup le VC, ouais, c'est pas un métier qui correspond à tous les types de personnalités. Le VC, il est adapté aux gens qui ont vraiment un profil généraliste, touche à tout, qui sont ok avec le fait d'être assez superficiel dans le savoir, parce que on n'a pas le temps de rentrer très en profondeur dans les sujets. Tu me demandais. Après le VC, qu'est-ce qu'on fait ?
Si on fait quelque chose, c'est quoi la carrière des gens qui font du VC ?
Ça dépend vraiment. C'est vrai qu'en général, en tout cas, moi, de ce que je vois, des juniors qui partent du VC. Donc, il y en a qui vont rejoindre des scale-up parce qu'ils disent « Ok, je veux rentrer un peu plus dans le concret, je veux produire des choses et je veux le faire dans un contexte d'une boîte qui réussit. » Parce qu'en général, quand tu es passé par le VC, tu comprends que le taux de casse... en startup, il est hyper élevé, donc il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise avec ce risque-là.
Donc la scale-up, qui est la startup un peu plus grosse, qui a déjà levé un certain montant et qui a peut-être plus de sécurité.
C'est ça. Moi, j'ai rarement vu des VC partir du VC pour rejoindre en tant qu'employé des jeunes startups. En général, s'ils le font, c'est parce qu'ils veulent créer leur propre startup. Mais encore une fois, tu peux être un très bon VC et être un très mauvais entrepreneur. Je ne vais pas en dire plus.
Ok, et par rapport au profil justement des juniors, toi tu es rentré en tant que junior, est-ce que tu constates une forme d'homogénéité dans les types de personnes qui se mettent à faire ce métier-là ? En gros, quel est le profil idéal, d'après toi, s'il y en a un, pour faire du venture capital, du capital risk ?
Ouais, alors c'était pas le cas quand moi je suis rentré en VC. Parce que en fait quand je suis rentrée en VC, le métier de junior commençait à se démocratiser, mais moi quand je suis rentrée en tant que junior, enfin j'avais déjà quand même 3 ans d'expérience pro en sortie d'école, donc j'avais quand même un peu de bagage professionnel. J'ai oublié la question.
C'était sur le profil type.
Ouais, sur le profil type. En gros, aujourd'hui, donc c'est plus standard parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus de postes qui se sont créés. Je pense que le poste de junior en VC, c'est quand même structuré au sein des fonds. Mais il va quand même varier en fonction du fonds. Par exemple, si on parle d'un fonds de seed, ce qui va intéresser en fait le VC, c'est avoir un junior qui en fait a un intérêt pour les secteurs dans lesquels le fonds de seed veut investir. Donc en fait, il va plus chercher à challenger sa culture générale et puis comprendre si le mec il est curieux, s'il est malin, s'il est capable en fait de sourcer des opportunités d'investissement facilement.
Un fonds de seed, c'est juste pour expliquer, c'est un fonds qui investit dans des entreprises vraiment très jeunes qui débutent ou vraiment sont pas loin de leur début.
C'est ça.
Ils investissent un peu plus tard généralement, même si ça peut aussi être le cas, quand il y a déjà quand même des chiffres et un business model ou un marché qui a été éprouvé, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Donc CID, c'est ça. Et en fait, donc, les autres tickets, les autres tours d'investissement qui suivent le CID, c'est la série A, la série B, la série C. Et en fait, plus les lettres avancent dans l'alphabet, plus les tours...
sont gros.
Si la boîte va bien, sont gros, et plus la boîte génère du chiffre d'affaires. Donc en fait, plus la boîte est mature, plus en fait le rôle du VC, ça va être faire de l'analyse financière, et en général, du coup, le junior, c'est vraiment lui qui va exécuter les analyses. Donc ça va vraiment être de l'analyse d'Excel, l'analyse d'audit que tu as commandé auprès de cabinets juridiques, etc. Et donc là, en général, c'est vrai que les VC vont être souvent plus intéressés par des profils qui sont passés par de la banque d'affaires ou du conseil, parce que c'est important en fait pour ces VC-là de pouvoir compter sur l'analyste. Donc il faut que ce soit des profils extrêmement rigoureux qui en fait aient déjà travaillé avec des chiffres et des présentations.
D'accord. Et par rapport à un niveau hiérarchique ou en tout cas un niveau, on va dire, de carrière un peu plus tardif, quel est le profil des personnes qui travaillent avec toi chez Ininvest? Tu as aussi travaillé chez Alven, qui est un autre fonds de VC.
Ouais.
Voilà, quel est le profil des personnes en termes de formation, d'expérience préliminaire?
C'est assez varié. Honnêtement, moi, quand je suis rentrée chez Ininvest, le profil était quand même un peu homogène. C'était des gens qui avaient fait une école de commerce et qui, en fait, avaient fait alors, soit de la banque d'affaires, soit, en fait, ont commencé avec du VC directement en sortant d'école. Donc, c'est vrai que moi, quand je suis arrivée, j'étais la première personne qui avait... une formation plutôt opérationnelle, parce que moi j'avais vraiment bossé en start-up, j'avais essayé de créer une start-up, j'avais bossé en tant que freelance. Les personnes qui ont rejoint l'équipe après, elles ont pareil un profil plus opérationnel. Donc elles ont pareil soit essayé de créer leur boîte ou bien. Non, il y a une personne qui a fait du conseil, mais qui après a dirigé, en fait, qui a été country manager. D'une start-up, enfin d'une scale-up plutôt américaine. Mais c'est vrai qu'en fait, quand tu regardes l'ancienne génération des VC, en général, c'est des gens qui ont fait essentiellement de l'investissement, surtout les partners, c'est vraiment des gens qui ont un profil, tu vois, très banquier. Et c'est assez récent, en fait, qu'il y a des profils plutôt entrepreneuriaux qui sont mis à créer des fonds ou bien à rejoindre des fonds d'investissement. Donc aujourd'hui, il y a un peu un mélange des deux.
Ok.
Donc c'est soit voilà, un intérêt pour la finance, soit vraiment un intérêt pour l'entrepreneuriat.
Et pour continuer à parler un peu carrière, toi, tu t'occupes aussi un peu du recrutement.
Oui.
Quel est le schéma de recrutement aujourd'hui pour quelqu'un qui voudrait rentrer en VC, soit en tant que stagiaire, soit en tant que junior? On a parlé un peu des profils, mais à quoi ressemble un processus? Comment toi, tu vas te baser, sur quoi tu vas te baser pour recruter quelqu'un?
Alors, pour les stagiaires, ce que je veux, c'est quelqu'un qui apprend vite, quelqu'un sur lequel je peux compter. Quelqu'un de rigoureux. Donc en général, du coup, on fait des raccourcis, mais en général, on va prendre des gens qui ont une bonne formation et qui ont déjà quand même travaillé, qui ont déjà de l'expérience professionnelle pour pas qu'ils débarquent quand on parle de sujets basiques liés à l'entreprise. Mais bon, donc sur ces profils-là, on prend de manière assez standard des gens qui ont fait une école de commerce ou une école d'ingénieur et qui en entretien démontrent des capacités de communication suffisantes pour pouvoir faire le job. Sur le poste d'analyse, c'est un peu différent parce qu'en fait, aujourd'hui, dans le métier du VC, on parle énormément du besoin de diversité. Donc que ce soit la diversité du genre, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah là là, il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs, investisseurs, donc il faut que ça change ». Mais on parle aussi de diversité des parcours, donc tu vois, nous typiquement, c'est vrai que dans notre équipe, on a surtout des profils commerciaux, on a très peu de profils techniques et ingénieurs. Donc aujourd'hui, dans la fiche de poste qu'on a designée, on voudrait idéalement quelqu'un qui a un profil technique. Et surtout, ce qu'on cherche aussi, c'est une diversité géographique. Parce qu'on est équipe franco-française, alors qu'on investit partout en Europe. Donc idéalement, on voudrait quelqu'un qui n'est pas français.
D'accord. Et à quoi ressemble la sélectivité dans le monde du VC pour ce type de poste? T'as combien de places en gros à Paris par an? Parce que c'est un métier qui est de plus en plus tendance. Il y a beaucoup de gens qui semblent chercher à rentrer.
Ouais.
Il y a combien de places pour Je connais pas le nombre de candidats, évidemment, mais...
En analyste, je pense qu'il y a 2-3 places par an qui se libèrent. pour des centaines et des centaines de candidatures. Moi, je vais dire, chez Idinvest, il y a 3 ans, alors que ça commençait, je pense, vraiment à exploser les candidatures, j'ai été prise alors qu'il y avait 400 candidatures.
Okay.
Là, on a posté une offre pour un poste d'analyste en début d'année. On a eu 500 candidatures.
Okay.
Et on n'a pas trouvé notre bonheur.
Impressionnant. Bon, donc très sélectif.
Extrêmement sélectif.
Écoute, on a couvert pas mal de sujets. J'ai une petite question pour terminer le podcast. C'est, est-ce qu'il y a une startup que tu as rencontrée dernièrement et que tu conseillerais à un étudiant pour réaliser un stage ou dans laquelle tu lui conseillerais de rentrer parce que vraiment tu trouves qu'elle est exceptionnelle et que ça serait une super expérience pour lui?
Ouais, mais elle est pas à Paris.
C'est pas grave.
Elle est à Berlin. C'est Billy. C'est un sujet qui n'est pas du tout sexy, c'est la distribution d'un facturage.
C'est quoi la facturage ?
La facturage, c'est du financement. En fait, c'est un prêt qui se fait sur la base de la facture. Donc en fait, je suis une entreprise, j'ai une facture, je sais que mon client va me payer a priori, mais à 30 jours. Moi, j'ai besoin de l'argent maintenant. Je vends ma facture à la banque et c'est la banque qui va récupérer l'argent auprès de mon client parce que c'est la banque désormais qui détient la facture. En fintech, récemment, il y a eu beaucoup de... Voilà, enfin, fintech, c'est un peu un buzzword, mais en ce moment, on arrive sur une vague vraiment intéressante de la fintech où en fait, on voit de plus en plus de boîtes qui vont automatiser et digitaliser le financement pour les PME, parce qu'aujourd'hui, en fait, les PME, c'est vraiment une cible qui est mal adressée par les acteurs de financement traditionnels. Et il y a de plus en plus de fintech qui développent des sujets pour ces sociétés. Donc en France, on n'a pas encore d'équivalent de Billy. Mais alors, pourquoi je recommande Billy? C'est, je pense, une boîte qui est extrêmement bien gérée. C'est des entrepreneurs qui ont déjà créé une boîte avant à peu près dans le même secteur. Et c'est une boîte qui a été très bien financée. Donc voilà, moi je trouve que le sujet est hyper intéressant. C'est une boîte en termes d'automatisation de process et voilà, de structure de société qui est ultra prometteuse. Et puis Berlin, c'est hyper chouette comme ville.
Ok, donc Billy, B-I-2-L-I-E.
I-E, ouais. Okay. I-O.
Top. Bah écoute, j'espère qu'il y a des étudiants qui iront candidater là-bas à l'issue du podcast. Est-ce qu'il y a, pour terminer, quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu aimerais mentionner ou dont tu aimerais parler
Ouais, j'ai pas eu le temps de rebondir dessus quand tu m'as posé la question, mais c'est vrai que la question qu'on me pose souvent, c'est c'est quoi le parcours idéal pour arriver au job de VC? Et en général, j'ai ce type de discussion avec mes stagiaires quand ils partent. Et en fait, moi, c'est vrai que j'ai eu plein d'expériences avant d'arriver au VC. D'aucuns diraient que c'était un peu un pot pourri, que c'était un peu chaotique. Mais en fait, à bientôt 30 ans, je me rends compte que mon parcours, en fait, il a été beaucoup plus riche. Et ça m'a permis, en fait, d'aboutir à un métier beaucoup plus épanouissant que mes camarades de promo qui avaient un plan préfet de « Ok, je veux aller bosser en conseil ou je veux aller bosser en marketing de luxe. » Et du coup, c'est des gens qui sont imposés en fait des étapes de carrière pour arriver à un job sans même se poser la question de savoir est-ce que ce job-là, c'est vraiment ce qui me plaît. Et à l'inverse, moi, c'est vrai que j'ai une approche un peu plus opportuniste. En gros, à chaque fois que je cherchais la prochaine étape, en fait, je me confrontais aux opportunités. Donc, je contactais des gens ou bien je regardais les offres qui me tombaient sur la main. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on a des idées préfaites de parcours professionnel, on se prive en fait d'autres opportunités auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc en fait, le conseil que je donne en général aux étudiants qui me posent ce genre de questions, c'est vraiment de ne pas avoir d'œillères, quoi. Enfin, c'est bien d'avoir un objectif long terme, mais en fait, la vérité, c'est que tant que tu es étudiant, tu ne te rends pas vraiment compte de la réalité du métier professionnel. Tu ne te connais pas vraiment, en fait. Tu ne sais pas ce qui te plaît, tu ne sais pas ce en quoi tu es bon, tu ne sais pas quelles sont tes faiblesses, parce que tout le monde a des forces et tout le monde a des faiblesses. Donc moi, je conseille vraiment de pas se laisser avoir par les kits de carrière professionnelle vendus par Ernst & Young ou L'Oréal. Enfin, vraiment, posez-vous les bonnes questions tôt, détendez-vous. J'ai écouté ton podcast avec Sylve et il dit « ça va aller ». Mais genre, c'est vraiment ça, c'est en fait « ça va aller, t'inquiète pas ». Et donnez-vous la... Ouais, donnez-vous la chance de tester plusieurs choses, de faire des erreurs, c'est en faisant aussi des erreurs qu'on apprend. Et au moins à 25 ans, c'est pas grave de démissionner et d'aller chercher un autre job. C'est un peu plus dur à 40 ans quand t'as ta famille un prêt sur le dos et que t'as 10 ans de carrière dans le même métier et que en fait ça t'a jamais plu, quoi.
Pas de plan de carrière, réfléchir à l'opportunité, quoi.
Ouais, et puis surtout rester honnête envers soi-même et faire les choix en fonction de soi et pas en fonction de la pression des pairs.
Top. Bon, bah c'est clair. Écoute, bah merci beaucoup d'avoir pris du temps pour ce podcast.
Et puis,
j'espère que le message que tu as fait passer sur le profil de l'analyste sera aussi éventuellement entendu par quelqu'un
N'hésitez
qui
pas.
Rejoindra votre équipe. Merci beaucoup, Sophie. Salut.
Salut.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner ou à le noter sur ta plateforme d'écoute préférée, à suivre les pages Facebook et Instagram de Sonar, et surtout à en parler autour de toi. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. À très vite pour un nouvel épisode.